Bienvenue dans la série spéciale Développeurs en 2039. Mon but est de te faire réfléchir à notre monde d'aujourd'hui en se projetant dans l'avenir. Cette série comporte 20 épisodes que je t'invite à suivre dans l'ordre. Prêt ? C'est parti !
Après mon épisode avec Thomas, j'étais un peu choqué. Je me doutais qu'on extrapolait un peu sur l'intelligence artificielle, mais honnêtement, pas à ce point. À l'écouter, on n'a même pas encore les bases théoriques d'une intelligence générale. Alors j'avais besoin de confronter son point de vue avec un autre acteur du milieu. Et je suis allé demander à Olivier Philippe, un autre data scientist. Il n'avait aucune connaissance de mon échange avec Thomas, d'autant plus que j'avais échangé avec lui avant d'un point de vue chronologique. Du coup, tu pourras mieux apprécier les similitudes ou les différences entre les discours. Bienvenue dans l'épisode 4 de la série Développeurs en 2039. Si tu viens de nous rejoindre, je t'invite à démarrer du début. Bon, après t'es un grand garçon ou une grande fille et tu fais comme tu le sens. Tu es prêt ? C'est parti. Aujourd'hui, je suis avec Olivier Philippe de Haut-de-Quant. Olivier Philippe, bonjour.
Bonjour Benoît.
Je te propose d'intervenir aujourd'hui sur le sujet de l'IA, c'est un petit peu ton expertise. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et après on enchaîne sur le sujet du jour ?
Alors, rapidement, je suis en fait un ingénieur en computer science il y a très longtemps et j'ai bifurqué en fait il y a une quinzaine d'années vers ce qu'on appelle maintenant la data science et donc l'IA. Voilà, et après une courte période, enfin quelques années on va dire aux États-Unis, je suis rentré en France pour former Haut-de-Quant, qui est une boîte spécialisée dans l'IA.
Ok, et du coup dans la série sur 2039 où on essaye de se projeter un petit peu à 20 ans, hein, c'est à la fois loin et pas très loin, 20 ans. La question que je me pose autour de l'IA qui quand même aujourd'hui est très, très à la mode, très tendance, qu'est-ce qui est réellement possible ? J'avais vraiment cette question que j'avais envie de poser à un expert du sujet, quoi. Au-delà des effets d'annonce et des trucs, qu'est-ce qui est réellement possible ? À quel point est-ce qu'on extrapole aujourd'hui quand on parle de cette vision du futur avec une IA intelligente, où on parle d'intelligence forte, d'intelligence faible. D'après toi, comment tu vois les choses ?
Alors, déjà, pour reprendre les termes, en fait, IA forte et faible sont des termes en fait, plutôt médiatiques et pas vraiment en fait, techniques et qui n'ont pas, pas de réel rapport en fait, avec ce qu'on fait. Donc, les deux IA en fait, qu'on va séparer, c'est l'IA générale, c'est-à-dire en fait, ce qu'on estime comme une IA forte, c'est-à-dire une machine qui pense comme un humain, si on veut, voilà, aller par là. Et tout le reste, ce qu'on fait en ce moment, donc le narrow AI, c'est-à-dire une IA qui fait une tâche. Voilà. Et ça, on le fait plutôt bien. Pour répondre à la question de qu'est-ce qu'on sait faire actuellement, on va dire qu'une petite règle rapide, c'est de dire tout ce que sait faire un humain cognitivement en une seconde ou moins, on arrive à peu près à le faire.
Ah, c'est la règle, c'est le temps de processing du cerveau humain. C'est un ordre de grandeur qui cale bien les choses, quoi, c'est ça ?
C'est un ordre de grandeur intéressant. Il y a des exceptions à ça, mais c'est un ordre de grandeur intéressant. C'est-à-dire que normalement, tout ce qu'on arrive à faire, donc de la reconnaissance visuelle, de la parole, etc., qui se fait en fait très rapidement dans le cerveau, on arrive à le faire, plus ou moins bien, avec des tâches plus ou moins... Par contre, des tâches cognitives plus complexes, c'est pour l'instant encore un peu compliqué. Voilà. De plus, ce qu'on ne sait pas faire, justement, et c'est une des bases de l'IA générale, c'est de faire plusieurs choses à la fois. C'est très compliqué pour les machines, pour ce qu'on sait faire en ce moment avec les algos qu'on a, de pouvoir en fait ne serait-ce que jouer aux échecs et jouer au go. On est meilleur que l'humain aux échecs, on est meilleur que l'humain au go, mais c'est un programme spécialisé à chaque fois.
Oui, mais si on additionne, c'est un peu comme nous, on apprend à jouer d'une chose et puis d'une autre. Si on additionne tous les programmes, est-ce qu'à un moment donné, ils ne deviennent pas meilleurs qu'un humain globalement en fait ?
Tout à fait, mais il en faudrait donc, un programme pour chaque tâche, réellement. Et donc, pour chaque tâche spécifique.
Est-ce qu'un Skynet est possible dans 20 ans ? Si tu le branches les missiles derrière et des usines à Terminator, est-ce que ça peut exister ou pas pour toi ?
Alors le Terminator, déjà non, ça c'est pour l'instant c'est pas le cas. Et en fait la réponse c'est on n'en sait rien. On sait même pas dire exactement dans combien de temps on pourra commencer à dire qu'on se rapproche de l'IA générale.
Attends, on en est là, on n'arrive pas. Et tout ce qu'on nous raconte à longueur de journée sur ça va être ça, c'est du pur prospectif, c'est même plus que du prospectif en fait.
Complètement. Ah ouais. On sait faire des tonnes de choses, on fait des avancées tous les jours et ça avance vite. Ça avance des fois tellement vite que même les chercheurs les plus pointus dans le domaine en fait sont surpris de la vitesse. Ça a été le cas pour le jeu de Go, entre autres. On pensait qu'il fallait encore 5 ou 6 ans minimum pour arriver à avoir quelque chose comme AlphaGo. Et en fait, on l'a fait à ce moment-là. Donc, ça va vite. Le problème, c'est que pour se dire, bon, l'IA générale, et en fait, voilà, faire un Skynet qui va dire, bah, tu vois, je vais prendre une décision d'anéantir les humains, mais il me faut des Terminators à côté, etc., et prendre ce genre de choses. On n'a pas commencé à commencer à le faire. C'est ça, en fait. On en est vraiment très, très, très loin. Voilà. Même si on travaille dessus, il y a beaucoup d'experts dans le domaine travaillent sur ça, sur essayer d'apprendre d'ailleurs d'une meilleure façon pour essayer justement de généraliser l'apprentissage et d'arriver à faire une IA, une première baby IA qui pourrait effectivement s'apparenter un tout petit peu à ce que fait l'humain de façon générale. Mais on en est là. C'est vraiment donc c'est pour ça que 20 ans, c'est même pas trop loin. On peut même pas à l'orée 5 ans, on ne sait pas encore ce qui va se passer en IA. Voilà. Donc on peut pas répondre sur 20 ans. La réponse honnête, c'est on n'en sait rien.
Et donc, voilà. Du coup, ça veut dire que les chantres de l'IA qui nous racontent le monde dans 10 ans, 20 ans, c'est qu'en fait, ils projettent complètement une interprétation des choses. On est presque plus dans le récit, en fait, que dans l'appui scientifique, quoi, en fait.
Complètement. On est en roman d'anticipation. Donc, c'est vraiment un roman, c'est-à-dire que c'est complètement romancé, c'est-à-dire que ce n'est pas réel. Et ça a des fois des appuis un tout petit peu sur la réalité. Mais ça extrapole énormément sur quelque chose où on ne sait pas dans quel sens on va aller. On ne sait pas si ça va aller dans ce sens-là. Et entre autres, le sens, par exemple, de domination des machines par rapport à l'humain, pour l'instant, c'est encore une affublation. C'est vraiment le mythe de Frankenstein et pas autre chose, quoi. Pour l'instant, on n'est absolument pas dans ce domaine-là. Voilà.
Et c'est quoi, du coup, l'intérêt de ces grosses boîtes, de tous ces GAFA qui payent des gens pour évangéliser et raconter, du coup, ce qui est une histoire? C'est même plus de la prospective, c'est du pur récit fictif. C'est quoi l'intérêt de ces sociétés? C'est de préparer l'opinion publique progressivement à accepter ça?
En partie, mais en fait, si on regarde bien le discours des GAFA, c'est pas eux, les GAFAM, en fait, maintenant on va rajouter Microsoft, c'est pas leur discours, en fait. Leur discours, c'est de dire, on est bon dans ce qu'on fait, on peut déjà vous aider à faire plein de choses, et c'est notre discours aussi, parce que c'est exactement ce qu'on dit quand on évangélise, on utilise le même terme, nos clients ou nos prospects, et on va pas leur dire, on va aller vers ce genre de choses, non, on va leur dire, actuellement, on sait déjà faire quelque chose pour vous aider, et ça suffit largement. Et ça suffit largement. Alors après, on peut aider de plus en plus et on peut extrapoler un tout petit peu sur actuellement, par exemple, les GAFA ont beaucoup travaillé sur les assistants personnels. Donc tout ce qui est donc Cortana, tout ce qui est Alexa, Google Home, OK Google, etc. Et ça marche plutôt bien déjà. Et ça, on peut en fait aller dans ce sens-là et dire on va arriver de mieux en mieux à réussir à avoir un assistant personnel. Et donc, en fait, à prendre des rendez-vous plus facilement, à savoir quel temps il fait, s'il faut que je prenne, comment je m'habille parce qu'il faut chaud, froid, ou ce soir, est-ce qu'il va pleuvoir, ou est-ce que j'ai pensé demain à rappeler la nounou, ou un truc comme ça. Voilà. Donc, ça, oui. Ça, on sait faire et ça peut aller de mieux en mieux, en fait. Mais pour l'instant, ça s'arrête là. Par contre, on peut considérer que dans 4-5 ans, on pourrait commencer à avoir des assistants personnels et un petit peu d'IA dans beaucoup de choses. Une cafetière, un réfrigérateur, des voitures, etc. Ça peut être partout. C'est ça, en fait, que cherche à faire les GAFA, c'est-à-dire en mettre un peu partout. Tout simplement parce que pour pouvoir progresser dans ces domaines-là, l'IA, en fait, qu'est-ce que c'est derrière? C'est surtout du traitement de la donnée. On traite des données. Et donc, il en faut des données. Voilà. C'est ça qui est derrière, en fait.
Donc, tout l'enjeu, c'est d'en faire générer, quoi.
C'est d'en faire générer et en fait de la récupérer surtout. Parce qu'on en génère des tonnes et des tonnes. Même il y a 20 ou 30 ans, on en générait en fait pas autant, mais on en régénérait beaucoup. Elle s'était tout simplement en fait pas stockée, perdue. Et de plus en plus, on se dit, mais non, il faut pas la perdre, il faut la stocker. C'est encore un petit problème en fait, entre autres pour nous, quand on va voir des sociétés qui ne conservent pas leurs données, qui ne conservent pas suffisamment de données, qui pourraient en fait, à un coût quasi nul, vraiment très faible, stocker de la donnée pour pouvoir s'en servir derrière. Pour pouvoir améliorer une tâche, pour pouvoir faire mieux, en fait, moins cher, diminuer les coûts, etc. Et ils ne le font pas. C'est un vrai problème. Tantôt, on arrive, on dit, en fait, on pourrait bien vous aider, mais il vous manque, en fait, la source. Il vous manque, en fait, sans ça, on ne peut rien faire. Il nous faut de la donnée. Voilà. Donc, on reviendra dans 6 mois ou 1 an quand vous aurez collecté la donnée. Parce que là, c'est sur quelque chose métier, en fait, on ne peut pas changer. Il faudra collecter la donnée métier. Après, sur d'autres projets, ça peut être de la donnée publique. Et là, en fait, on peut aider, on peut aller récupérer des bases ailleurs et faire un projet. Mais sur de la donnée, sur du métier, il faut aller récupérer la donnée là où elle se trouve. Et c'est ça, en fait, ce qui est derrière. Ce qui est derrière les GAFAM, c'est surtout ça.
C'est la collecte des données. Bah écoute, c'était super intéressant. La boîte de temps arrive à sa fin. Je te remercie, Olivier, de ta participation. Si les auditeurs veulent en savoir plus sur O2Quant, ils peuvent venir où ?
Sur notre site, www.o2quant.com. Voilà. Ou sinon, en fait, s'ils sont sur Aix-Marseille, des meet-up Aix-Marseille.
D'accord.
Puisqu'on est aussi, voilà, on organise des meet-up sur Aix-Marseille. Il y a le même sur Paris, qui est un des plus gros au monde. Donc, meet-up, c'est gratuit. C'est une, voilà, c'est au niveau de la communauté. Et si on veut se renseigner là-dessus, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Après, il y a plein d'autres endroits, mais en fait, il faudra faire un petit post avec tous les lieux, tous les liens où on peut se renseigner, de avoir de la bonne information sur l'IA et pouvoir en fait suivre un petit peu ce qui se passe, etc., etc. Il y a de quoi faire.
Je te remercie, Olivier.
Mais c'est mon plaisir. Ça a été mon grand plaisir de faire ce podcast.
Au revoir.
Au revoir.
Bon, Olivier et Thomas sont totalement en ligne. En fait, on est encore loin d'une intelligence artificielle générale. Et on ne sait même pas encore comment on va essayer de s'y prendre. Bref, on nous enfume à coups d'IA par-ci et par-là. Bon, attention, l'intelligence artificielle apporte de réels progrès, mais sur des domaines d'application extrêmement étroits. La pensée systémique, c'est pas pour tout de suite. Mais Olivier ouvre une piste super intéressante. L'enjeu n'est pas tant de savoir ce qui est possible, mais c'est de récupérer les données. En effet, pour pouvoir espérer créer les IA de demain, il faut avoir la data. C'est donc la course à celui qui en aura le plus. Un peu comme à une époque, une nation était forte quand elle avait du pétrole dans son sous-sol. Demain, les entreprises les plus puissantes seront celles qui auront la ressource première, la data. Nos data, nos données. Celles qu'on donne généreusement en échange de services gratuits. Il y a cette maxime que j'aime bien. Quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Pendant que la génération de données explose, il paraît que 400 heures de vidéos sont uploadées sur YouTube chaque minute. La consommation d'énergie va forcément de pair. Or, on sait qu'on va avoir quelques petits soucis d'approvisionnement, en particulier en pétrole, où on commence à voir même que le pétrole de schiste ne parvient plus à combler les baisses de production de pétrole en général, et en particulier depuis qu'on a dépassé le pic de pétrole conventionnel. Dans une économie shootée au pétrole, dont le PIB est directement corrélé à la consommation d'énergie, comment l'intelligence artificielle pourrait résister à une contraction de l'énergie disponible ? Dans un avenir en pénurie d'énergie, comment tout ça peut tourner ? Pour répondre à ces questions, on retournera échanger avec Olivier Philippe, qui a des réponses vraiment surprenantes et très intéressantes. D'ici là, si tu apprécies cette série, je t'invite à mettre 5 étoiles dans ton application de podcast préférée. Ça me rend un grand service, car les notes comptent pour la visibilité de l'émission. Merci d'avance, et maintenant, place à la fiction qui nous projette en 2039, et je te dis à demain.
Monsieur Ortez, votre rendez-vous est là.
Faites-les entrer.
Bonjour, monsieur Ortez, vous m'avez convoqué ?
Oui, Benjamin. Merci d'être venu.
Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?
J'ai un travail important à vous confier. Ça fait quelques années que je suis impressionné par la qualité de votre travail. Et j'apprécie également votre implication. J'ai confiance en vous. Alors j'ai pensé à vous pour notre nouveau projet confidentiel.
Merci pour ces compliments et votre confiance. Et en quoi ça consiste ce projet ?
Vous savez que notre chère mère repart bientôt en campagne pour de nouvelles élections.
Bien sûr, c'est difficile de rater ça. Une fois tous les 20 ans, c'est un événement.
Il nous a demandé de l'aide.
C'est-à-dire, je vois pas bien comment on peut aider notre mère.
Notre chère mère n'est plus si populaire que ça. Il est donné perdant à 48% contre 52%. Il suffirait d'influencer le vote sur 1% de nos 30 millions de concitoyens que compte Atlantis pour faire basculer le vote.
Mais comment vous comptez faire ça ?
Depuis 20 ans, nous collectons beaucoup de données sur chaque citoyen. Ces données, vous les connaissez bien. C'est vous qui vous en occupez. Il suffirait de cibler un peu plus de 300 000 personnes, disons 400 000 pour être tranquille, et les effacer pour qu'ils ne puissent plus voter. Je suis sûr que vous trouverez les bons algorithmes pour choisir qui cibler. Si on s'y prend assez discrètement, personne n'aura le temps de réagir.
C'est chaud là quand même. Vous me demandez de cibler 400 000 citoyens parfaitement en règle pour les effacer, simplement parce qu'ils n'aiment pas le maire en place ? Mais de quoi on parle, là ? Vous êtes sérieux ? Non, c'est un test. Voilà, c'est ça. Dites-moi que vous déconnez et que vous les testez mes nerfs, c'est pas possible.
Non. Je suis très sérieux. Il va sans dire que vous serez largement récompensé.
Je suis pas à vendre.
Je me doutais que vous réagiriez comme ça. Mais réfléchissez. Avec l'arrivée d'un deuxième bébé, ça va faire du monde à nourrir et à loger.
Mais comment vous savez... Oh, laissez tomber.
Il suffirait de quelques heures de travail. Et vous doublez votre salaire. Et la taille de votre appartement. Ou même tripler si ce n'est qu'une question d'argent.
Et même si j'étais d'accord, je ferais comment pour effacer les gens? On n'a pas accès au système sans l'approbation d'un juge. Vous avez aussi corrompu des juges, peut-être.
Oui, mais en pratique, cela ne suffirait pas. Il y a des contrôles internes. C'est plus qu'un juge qu'il nous faudrait. Alors, on a fait plus simple. On a volé les clés de chiffrement pour accéder au cœur du système de sécurité d'Atlantis. Nous pourrons effacer qui on veut sur simple demande et sans laisser de traces. Voilà la clé qui contient les éléments nécessaires. Je vous laisse les étudier.
Vous êtes encore plus fou que je le pensais.
Je préfère efficace, mais chacun ses mots. Allez, Benjamin, arrêtez avec votre air de pucelle effarouchée. Vous êtes un homme responsable. Et personne n'en saura rien en dehors de vous et moi. Alors prenez le temps de réfléchir.
Ouais, c'est ça. Je vais y réfléchir.